L'année 1914 marqua le début de la Grande Guerre, grande par l'étendue de la zone de combat, grande par le nombre de morts tombés sur les champs de bataille. La région Nord-Pas-de-Calais a été durement touchée par cette guerre et les cimetières militaires sont nombreux dans les plaines de l'Artois. Artois-Com, la communauté de communes de l'Artois, consacre actuellement une exposition à ce thème sur 10 villages touchés par ce drame. De Neufchâpel à Vermelles, un parcours de la mémoire en 10 étapes vous attend jusqu'au 28 septembre 2014. Nous vous proposons de le découvrir avec ceux qui étaient présents lors du vernissage de cette exposition Ligne de front 14-18.
Oui, bonjour, je suis le lieutenant Perrier, Louis, vice-président de l'UNORAB de Béthune, Union nationale des officiers de réserve de l'arrondissement de Béthune. C'est une région issue qui est assez ancrée quand même, qui a beaucoup souffert. Hein. Vous avez Neufchâpel, Fétubert, vous avez le Fay-la-Couture, Richebourg, et il y a des cimetières, pas seulement en français, hein. Vous avez des Anglais, vous avez des Indiens, vous avez des Portugais, vous avez des Australiens, vous avez des Néo-Zélandais. Vous voyez, c'est des gens qui sont venus de tout le monde entier pour la liberté, pour la démocratie. Voilà, et ça, je crois que c'est les gosses de 20 ans, il faut qu'on y pense. C'est vrai qu'il y a eu, c'était la guerre affreuse, et beaucoup, voilà, il faut penser à ces petits jeunes de 20 ans qui partaient comme ça, la fleur fusil, comme on dit. Mais voilà, ils sont morts pour la France, et vous pouvez voir, si vous voyagez dans toute la France, que dans tous les monuments aux morts, vous avez quand même des noms. Sur 10, il y en a 7 qui revenaient aux 8. Voilà, pour la France et pour la liberté. Devoir de souvenir.
Bien, bonjour, je me nomme Dominique Delecourt, je suis le maire de Coinchy et également président du CIVOM des deux cantons. Donc CIVOM des deux cantons qui regroupe énormément de communes qui sont situées actuellement sur la ligne de front. Voilà.
Donc cette ligne de front, elle a été historiquement un drame pour vos communes. Comment on revit ça des années après ?
Oui, c'est vrai que ça a été un drame pour nos communes il y a 100 ans à peu près. Au niveau humain, au niveau démolition du territoire, ça a été très important. 100 ans après, nous souhaitons remettre cette image pour nos jeunes populations parce qu'on en a besoin de cette histoire. Pour savoir où on veut aller, il ne faut pas oublier d'où on vient. Donc ce sont quand même des leçons à retenir. Voilà.
Les communes de votre canton ont été beaucoup touchées, certaines ont été rasées même.
Oui, un certain nombre de communes ont été rasées totalement. Coinchy, Givenchy, Fétubert, j'en oublie certainement, mais elles ont subi d'énormes dégâts. Elles ont été, comme Coinchy par exemple, a été fortement démolie. Et la reconstruction s'est faite sur un autre modèle, pas sur celui qu'il existait avant. Voilà.
Ça a été aussi un changement de vie, cette reconstruction, pour certains habitants ?
Ben oui, puisque un changement de vie, certainement, c'est-à-dire des centres-villes ou un centre de village qui était prévu dans un endroit a changé carrément de lieu pour revenir dans un autre endroit de la commune.
Donc là, il reste des traces, on va dire, de cette guerre, notamment des monuments et puis aussi des cimetières, malheureusement.
Oui, il reste encore quelques traces de notre église, la première église démolie, puisque celle que vous rencontrez à Coinchy actuellement n'est pas la première. C'est une deuxième qui a été reconstruite, mais la première, il reste encore des fondations en pavé, voilà, en grès.
Beaucoup de cimetières dans la région ?
Nous avons, sur toutes les communes de la ligne de front, nous avons énormément de cimetières anglais, canadiens. Sur Coinchy, nous avons deux cimetières anglais, avec dans notre cimetière communal des Anglais également qui ont été inhumés. Dans notre cimetière communal, nous avons un petit carré également.
Vous observez la présence de personnes qui viennent d'Angleterre ou d'ailleurs pour visiter, pour rendre visite, on va dire ?
C'est l'occasion pour eux de venir, mais depuis toujours, nous constatons que des Anglais viennent en France, viennent nous rendre visite. Je suis également garde d'honneur de Lorette, donc je vois énormément de gens qui se promènent pour rechercher un ancien qui a été tué, pour visiter nos monuments, puisque notre monument aux morts, comme les autres, sont très, très bien entretenus, et ça attire un petit peu l'œil des touristes extérieurs. Voilà.
Donc ces touristes extérieurs, on parle de tourisme historique aussi hein, dans la région maintenant. Il y a longtemps qu'ils viennent dans notre région. Est-ce que vous les sentez cette année plus mobilisés que d'habitude ?
Oui, je pense qu'il est certain qu'ils sont beaucoup plus mobilisés. Le centenaire y fait quelque chose. Les moyens employés par Artois.com pour fêter cet événement, il est très important. Donc, ils se mobilisent beaucoup plus qu'avant. C'est l'occasion pour eux de découvrir en plus des recherches historiques qui ont été faites sur cette guerre de 14-18. Et avec M. Lecomte, bien sûr, qui a utilisé quand même des racines du territoire pour monter cette superbe exposition. Donc c'est vrai qu'ils doivent se mobiliser pour découvrir tout ça.
Bonjour à tous, bienvenue à Neuf-Chapelle, l'un des 10 sites de la ligne de front. Donc à l'occasion de la Première Guerre mondiale, de la commémoration de la Première Guerre mondiale, Artois.com organise cette exposition. Donc comme vous pouvez le voir, il y a deux conteneurs. Il y a un premier conteneur historique sur l'histoire de la ville pendant la Première Guerre mondiale et un deuxième conteneur artistique, cette fois-ci, avec une œuvre d'une artiste contemporaine. Alors, c'est une vidéo de Rosella Piccino, une artiste italienne, qui s'est inspirée d'une anecdote lors de la Première Guerre mondiale. En fait, les soldats portugais avaient recueilli dans leurs tranchées une statue du Christ qui avait été meurtrie par les bombardements et l'avait gardée un peu comme totem, comme porte-bonheur pour leur donner de la force pour attaquer les Allemands.
Je suis Philippe Massardier, donc le commissaire artistique de l'exposition Ligne de front pour Artois.com.
Comment vous avez choisi vos intervenants et les artistes ?
Sur le travail qu'ils développent, hein, non pas sur des projets qu'ils pourraient nous apporter. Ils sont choisis parce qu'on sent une sensibilité chez eux qui pourrait s'accorder à cette idée de commémoration contemporaine. Puisqu'on est dans une commémoration, le déclenchement de la guerre de 14-18, et elle ne se vit pas comme après la guerre de 14, hein, où les commémorations avaient des vertus patriotiques. Hein. Aujourd'hui, on est plus dans des commémorations où on s'interroge sur le bien fondé de la guerre, sur la vertu aussi universelle de la guerre. Et on a des œuvres qui sont vraiment très différentes d'artiste en artiste. Si auparavant c'était simplement la statuaire qui avait cette vertu commémorative, aujourd'hui nous sommes dans des médiums qui sont complètement différents, comme vous avez pu le voir. On a de la sculpture, on a de la peinture, on a de la vidéo, on aura aussi une installation électronique dans un autre conteneur. Voilà, tous les médias sont mobilisés pour répondre à cette question. Comment aujourd'hui, en 2014, commémorer cette guerre qui s'est déroulée il y a un siècle.
Combien d'artistes participent à cet ensemble d'expositions ?
Il y a 10 communes, mais il y a 11 artistes, puisque dans la commune de Fétubert, il y a 2 artistes qui travaillent ensemble, un vidéaste Tristan Sonnet et un peintre Philippe Manière.
Voilà donc, cette exposition est l'objet d'un parcours, donc plusieurs communes avec des cœurs de communes traditionnels, l'église, la mairie et le monument aux morts.
Voilà, donc on est sur un parcours qui relie effectivement une dizaine de communes, de Neuf-Chapelle à Vermel, qui est un parcours qui nous est dicté par le front, là où il s'est établi pendant la guerre de 14-18. Ensuite, la plupart de ces communes ont été rasées. La période de la reconstruction les a fait se reconduire sur un modèle qui est effectivement un modèle du centre, avec la mairie, l'église, une place, et sur cette place, dans les années 20-30, sera posé le monument aux morts. Et pour nous, ça nous a paru évident à ce moment-là que nos structures devaient être à proximité de ces emplacements comme une réponse contemporaine à cet urbanisme de l'après-guerre.
Donc le circuit qu'on peut faire, que le visiteur peut faire, emprunte donc une route qui est un peu balisée, on va dire. Il y a un lieu assez étonnant, c'est
un lieu où il existe un monument qui est une création, c'est à La Couture, c'est très particulier ce monument.
Alors, La Couture, effectivement, c'est un site qui est particulier. Cette commune a vécu des batailles très fortes qui ont engagé principalement les troupes portugaises. Et c'est un très haut lieu de commémoration nationale pour la nation portugaise, avec aussi neuf chapelles. Et on peut découvrir donc sur la place de l'église un monument qui est exceptionnel, une sculpture exceptionnelle aux combattants portugais. Et à proximité donc de cette sculpture, Claude Lévesque a installé une œuvre qui est un conteneur explosé, qui évoque le fracas de la bataille, le fracas de la guerre, et qui, la nuit, par le biais de stroboscopes qui sont à l'intérieur, évoque aussi les déclenchements de fusées, la lumière qui devait donc impressionner les soldats pendant les combats.
Certains de ces artistes sont jeunes, et même certaines italiennes.
Alors oui, au niveau des artistes, hein, c'est aussi le choix qui est fait, hein, c'est d'avoir des artistes qui sont, comme on dira, installés, hein, Claude Lévesque, Denis Darzac, Yann Kopp, Sophie Ristel-Huber, qui sont une génération d'artistes connus, mais aussi c'est de faire apparaître des jeunes artistes qui sont reconnus comme étant des gens très sensibles, hein, et dont le travail est aussi très fort. Hommes, femmes, nationalités différentes. On n'a pas cherché à avoir toutes les nationalités qui étaient engagées dans la guerre 14, parce que c'était beaucoup. Mais donc on a deux Italiennes, un Allemand, Yann Kopp, puis des gens aussi, des Français, mais qui circulent dans le monde entier, quoi, aujourd'hui, hein, qui sont présentés dans le monde entier. Hein, et c'est ça aussi l'internationalisme de cette opération-là et cette vocation universelle de réflexion sur cette commémoration.
Eh bien, écoutez, je suis enchantée de vous accueillir sur notre exposition Artuacom. Donc ici, vous avez le conteneur artistique où une peintre italienne, Giulia Andreani, vous présente ses œuvres. Vestem Muto, qui signifie changement de vêtements, un petit peu dans notre langue française, et qui représente donc la condition de la femme, comment se situait la femme dans cette guerre.
Bonjour, je suis Giulia Andreani, artiste invitée par la Blabank pour ce projet Ligne de front autour de la commémoration de la guerre de 14-18. Et dans le cadre du parcours, on nous a demandé de concevoir une exposition personnelle dans des conteneurs maritimes de 12 mètres de long. Et donc, étant peintre, j'ai conçu une petite exposition qui est le résultat de quelques mois de recherche autour de la Première Guerre mondiale. Pour cette exposition qui a lieu à Richebourg, donc l'une des communes qui est concernée par le projet Ligne de front, j'ai décidé de travailler comme d'habitude, sur des archives historiques. Et j'ai choisi de travailler principalement sur la question du rôle des femmes au sein de cette guerre, à la fois sur les femmes au travail et à la fois sur la façon très particulière dont les habits qu'elle portait dans ses nouveaux rôles, en fait, transmettent une sorte de changement. C'est-à-dire que je trouve que les habits qu'elle portait au sein de professions auxquelles étaient niées, en fait, avant la guerre. Donc on peut voir des cheminotes. D'ailleurs, le terme de cheminote a été inventé à ce moment-là, ou des femmes pompiers. Donc ces habits sont hybrides dans la mesure où on voit encore des sortes de jupons retroussés, ou alors elles sont en train de tirer une charrette pour amener de l'eau. et elles ont des chaussures à talons, donc il y a quelque chose de grotesque, quelque chose d'encore enfantin, et donc pour moi est assez visuellement significatif de ce moment de passage. Et donc c'est une réflexion aussi sur comment cette guerre aurait pu être émancipatrice ou pas pour les femmes. Et d'autre part, il y a aussi une autre installation au sol qui est plus directement liée à la situation de Richebourg, donc de cette petite commune dans le cadre de la guerre.
Donc le fait d'avoir replongé dans les archives, est-ce que ça vous a appris, apporté des choses? Et qu'est-ce que vous avez trouvé dans cette expérience pour vous artistique qui vous a amené une réflexion et peut-être aussi l'idée de transmettre des idées sinon des valeurs?
Comme artiste, je me méfie un peu des idées, des valeurs. Je fais beaucoup confiance aux images. Enfin, le travail en archive, c'est vraiment quelque chose qui est central pour mon travail de peinture. Donc c'est sur des sujets différents du XXe siècle. Là, pour le coup, c'était la première fois que je me plongeais dans des archives si anciens, donc, qui ont maintenant une centaine d'années. Le fait de travailler en archives permet en fait de creuser dans les parties d'ombre de l'histoire. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est moins les archives officielles, institutionnelles, qu'est aussi des archives qui peuvent être des archives familiales, par exemple, ou en tout cas des documents qui ont été moins exploités par les chercheurs scientifiques, par exemple. Et donc là, dans ce cas-là, dans le cadre de cette exposition, j'ai voulu monumentaliser, donc les formats sont très grands. Donc au final, les images qu'on retrouve sont assez limitées, mais j'ai recueilli, comme d'habitude, un grand nombre de documents qui peuvent être des lettres, des échanges entre femmes, entre les femmes et leurs maris dans les tranchées, mais aussi des documents plus lié à des questions politiques, par exemple la question autour de la première femme qui s'est autoproclamée mère d'un village en Picardie par l'absence des hommes, et comment en fait ce type de prise de position en fait dans la société de la part des femmes a créé du moins des questionnements, si pas des problèmes au sein de la société.
Alors je m'appelle Bertrand Lecomte, je suis professeur d'histoire-géographie, et puis sur le projet de Ligne de Front, je me suis chargé du commissariat de l'exposition historique. Donc c'est-à-dire que j'ai préparé avec les historiens locaux toute la partie histoire de ce grand projet qui s'appelle Ligne de Front 14-18.
Quelle est la part d'archives, on va dire, de fonds déjà existants, et la part de recherche que ça a imposé?
Alors pour réussir à finaliser cette exposition, donc c'était un long travail avec les historiens locaux, qui, dans une première étape, m'ont fait part de tous leurs documents. Donc ils ont sorti de leurs collections personnelles, de leurs archives personnelles, des cartes postales de chacune des communes à la fin de la Première Guerre mondiale, ou alors des photographies qui montraient des soldats, ou des soldats anglais, ou alors des soldats portugais, on a vu ça aussi, puis des lettres. Et ils m'ont également montré leurs petites recherches historiques qui permettaient de savoir un petit peu ce qui s'était passé dans chacune des communes. Alors fort de tout ça, on a commencé à faire un petit travail de sélection, puis on s'est rendu compte qu'en termes d'informations et de documents, c'était pas suffisant, parce qu'on n'avait pas assez de sources qui traitaient vraiment de la présence des soldats indiens, des soldats anglais. Donc ça a impliqué une recherche complémentaire avec certains historiens locaux qui étaient disponibles, et nous sommes allés dans les archives, aussi bien en Angleterre, donc à Londres, à l'Imperial War Museum, pour regarder dans les archives iconographiques s'il n'y avait pas des photos inconnues prises dans chacune des communes de Ligne de Front, et il y en avait beaucoup. Ensuite, on est allé aussi aux archives départementales du Pas-de-Calais pour retrouver les sources administratives qui permettent d'en apprendre un peu plus sur ce qui s'est passé dans la commune. Alors pendant la guerre, c'est un peu délicat, mais surtout au moment de la reconstruction, du retour des populations, des indemnités, etc. Et puis après, nous sommes allés aux archives de l'évêché du département du Pas-de-Calais, donc les archives diocésaines à Arras. Et là, nous avons trouvé des fonds biographiques concernant les prêtres qui étaient encore très présents sur la ligne de front. Enfin, pas dans les communes où il y avait les tranchées, mais dans les communes juste derrière. Et ces prêtres ont été relativement témoins et ils ont raconté aussi beaucoup de choses. Et c'est dans cette recherche que nous avons retrouvé tout le dossier traitant de la mort du prêtre de Vermel, l'abbé Ducourant, qui a été fusillé par les Allemands lors de l'invasion de la commune en octobre 1914. Donc pour mettre en place cette exposition Ligne de front, c'est vraiment un travail croisé entre les archives locales détenues par les passionnés au niveau local et la recherche dans les archives nationales et départementales pour à la fin avoir un corpus documentaire très riche et pouvoir faire une sélection pour valoriser des aspects très précis de la Première Guerre mondiale dans chacune des communes.
Donc je suppose que certains habitants ont des archives, est-ce qu'ils sont prêts à les partager ?
Ben ça c'est la bonne question. Alors souvent les gens sont propriétaires des archives familiales et quand il a été question de leur demander s'ils acceptaient pour le projet Ligne de front de rendre public ces documents, puisqu'ensuite chacun pourra venir les consulter dans les panneaux d'exposition, éventuellement les reprendre en photo, etc., personne s'y opposait. Au contraire, tout le monde était d'accord, enthousiaste à l'idée de pouvoir faire profiter au plus grand nombre leurs documents personnels. Donc il n'y a pas eu de souci particulier.
Donc cette exposition est aussi le fait de l'intercommunalité. Est-ce que les habitants d'un village sont prêts à exposer l'histoire de leur famille ou les documents qu'ils ont aux yeux des autres villageois ?
Alors c'est vrai que parfois il pourrait y avoir des petites rivalités de clochers, un historien local qui souhaiterait que ces documents restent que pour sa commune. Alors ça c'est ce contre quoi j'ai voulu lutter à titre personnel, parce que j'estime que si on faisait une exposition sur 10 communes et si dans chacune des communes on retrouvait finalement la même chose, l'église en ruine, la rue principale en ruine, les 10 micro-expositions n'avaient plus d'utilité. Donc il fallait trouver des choses spécifiques pour chacune des communes et aussi des choses qui soient transversales. Donc un document qui évoque par exemple une tranchée à Givenchy pouvait être utilisé à Fétubert pour illustrer le thème des tranchées. Donc en présentant cette démarche, chaque historien s'est rendu compte que c'était intéressant aussi de partager pour éclairer avec son document local une thématique plutôt transversale.
Donc vous êtes commissaire de l'exposition historique, il existe aussi un commissaire de l'exposition d'un point de vue plastique. Est-ce que vous vous êtes concerté et sur quel point vous êtes mis d'accord, voire les points d'opposition ?
Alors là-dessus, on va dire le grand commissaire général de l'exposition, aussi bien artistique qu'organisationnel, c'était Monsieur Massardier. Et on s'est rencontrés une fois, j'ai expliqué un petit peu mon point de vue, ce que je viens de faire un instant, à savoir des micro-expositions qui se complètent, qui sont autonomes et qui peuvent être aussi découvertes dans une continuité. Le concept l'a intéressé et après j'ai eu les coups des franches. Totale liberté, totale autonomie et j'ai trouvé ça vraiment très stimulant puisqu'on a pu, avec les historiens locaux, réellement produire ce que chacun voulait faire sans avoir de contraintes de la part de l'intercommunalité. Donc là-dessus, merci.
Donc vous êtes historien, un centenaire comme ça pour vous, ça semble très stimulant.
Bah effectivement, parce que c'est l'occasion justement de rendre public le travail que chacun mène dans son coin depuis parfois de nombreuses années. Donc c'est l'occasion aussi de travailler en réseau, de travailler en groupe, pas toujours être dans son coin, c'est ça qui est bien aussi, de fédérer les forces, comme on dit, hein, l'union fait la force. Donc si on travaille ensemble, c'est aussi un bon moyen aussi de faire des renvois de... C'est peut-être pas le bon terme, des renvois d'ascenseur, mais l'idée c'est si un tel s'impliquait pour aider quelqu'un dans sa partie, et bien inversement l'autre le fera. Et au final c'est chacun qui va aller voir l'exposition dans son intégralité. Donc en ça c'était très intéressant dans la démarche. Et aussi le fait que ce soit le centenaire, ça permet aussi de donner un goût encore plus important dans le grand public qui redécouvre cette époque-là. Alors c'est toujours traité par les historiens depuis très longtemps, mais là le fait qu'il y ait les grands... projecteur de tous les médias actuellement qui soient braqués sur cette thématique, de par le centenaire, ça développe un attrait beaucoup plus conséquent et surtout, ça permet aux populations de se dire « mais chez moi aussi, dans mes greniers, dans mes archives personnelles, j'ai un document et en fait, il y a une pompe qui s'amorce. » Et on peut lancer un travail qui se veut partagé et collaboratif. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc pour moi, qui me passionne pour cette histoire-là, cette époque-là, c'est entre guillemets du pain béni. Et c'est vraiment très, très bien, très stimulant.
Comment on partage ça auprès du public, du grand public, et notamment des personnes qui habitent dans ces villages, dans leur village? Est-ce qu'ils sont prêts à faire le parcours? Et comment aussi attirer
la population extérieure, voire étrangère.
Bah, c'était aussi l'un des paris hein, de cette exposition. Est-ce qu'on fait une expo strictement locale qui n'intéresse que les gens de la rue, ou est-ce qu'on fait une expo qui permette d'intéresser le grand public qui ne connaît pas du tout la rue, parce qu'elle n'habite pas sur le territoire. Donc le parti pris qui a été choisi, c'est de rentrer dans des situations très concrètes. Donc pour chacune des communes, c'est de présenter après une introduction générale qui explique ce que c'est qu'une ligne de front, les tranchées, etc. C'est de présenter d'abord un événement majeur. Un événement majeur qui est encore très présent dans la mémoire du village, donc une bataille qui souvent peut être encore commémorée. Donc c'est présent notamment sur Richebourg, la bataille du Burshead, la tête de sanglier, pour laquelle des Anglais viennent encore aujourd'hui régulièrement faire des cérémonies commémoratives et découvrir les sites de mémoire. Donc la première entrée, c'est un événement majeur qui cristallise la mémoire. La deuxième entrée, c'est un personnage. Un personnage pour lequel on a retrouvé tous les éléments biographiques et qui touche les familles locales. Mais ce personnage, il n'est pas choisi au hasard parce que c'est le grand-père de telle personne. C'est un personnage qui se veut emblématique, caractéristique d'un type de population. Donc ça peut être un soldat, un officier. Et donc à travers son parcours, on évoque le destin des officiers, l'action des officiers dans les tranchées. Ça peut être un civil, un homme qui a travaillé pour les militaires britanniques. Donc avec ces entrées très personnalisées, on découvre la vie d'une personne et c'est mis en perspective à chaque fois. Donc quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'histoire de cette famille peut, grâce à la perspective, comprendre que ce personnage, c'était un personnage parmi des milliers qui ont joué le même rôle ou qui ont eu la même histoire ailleurs sur le front. Après l'histoire d'un personnage, c'était aussi de mettre en valeur un lieu, un site de la commune. Ça peut être un lieu-dit ou ça peut être un monument. Là, on est à Givenchy. Le monument qui était emblématique, le lieu emblématique, c'est le petit morceau du territoire où il y a une grande tour, une sorte d'obélisque qui commémore la 55e division britannique. Tous les habitants de la commune passent devant, mais je pense que très peu aujourd'hui savent expliquer pourquoi ça, c'est là. Donc le fait de prendre ce lieu comme étant un lieu remarquable, de l'expliquer, ça permet justement aux gens de s'approprier l'histoire. Et surtout après, si on explique pourquoi la 55e division était là, donc on sensibilise les Britanniques qui viennent et puis qui peuvent se dire « Ah ben c'est vrai que nos soldats britanniques sont passés par ici », on montre les photos qui ont été prises dans le terrain et on découvre comment finalement des soldats britanniques occupaient les tranchées en 1918 à Givenchy mais aussi dans les communes limitrophes. Donc c'est pour ça qu'on peut faire un jeu d'échelle, on découvre des choses purement locales, purement personnelles, mais la mise en contexte fait que ça peut toucher tout le monde. Et pour finir, pour vraiment toucher le plus large public, à chaque fois, dans chacune des communes, il y a un thème qui se veut transversal. Donc par exemple ici sur Givenchy, c'est l'aide étrangère. Mais pas l'aide étrangère pendant la guerre, l'aide étrangère après la guerre pour reconstruire les villages. Et donc là, tous les documents qui sont sur ce panneau présentés à Givenchy sont des documents qui relatent ce qui s'est passé dans toutes les communes. Et ce qui s'est passé pour ces 10 communes, s'est passé aussi pour toutes les communes du front. Les villes anglaises ou des villes américaines ou des familles étrangères ont donné de l'argent pour aider à reconstruire un village ou reconstruire une école. Donc c'est cette mise en perspective à partir à chaque fois d'une entrée purement locale ou purement personnelle qui permet de toucher un maximum de personnes.
Donc en faisant vos recherches, en préparant cette exposition, qu'est-ce qui a pu encore vous surprendre? Est-ce que vous avez découvert des choses inédites et que vous mettez à l'actif du patrimoine de l'histoire de France et mondiale, bien sûr?
Alors ce qui était aussi intéressant pour moi, c'est qu'en discutant avec les historiens locaux, donc j'ai découvert plusieurs choses, plusieurs on va dire, types d'informations que je ne connaissais pas. Donc il y a des historiens locaux qui, pour certains, sont d'un certain âge, et ils m'ont confié la mémoire qu'on leur avait transmise. C'est-à-dire qu'ils étaient capables de me dire, par le biais de ce que leurs parents avaient raconté, qu'à tel endroit, il y avait le passage d'une voie de chemin de fer de la Première Guerre mondiale. À tel endroit, il y avait un abri qui n'est plus visible aujourd'hui. À tel endroit, cette maison avait été utilisée comme centre de commandement. Donc ça, c'est une richesse qu'on ne trouve pas dans les sources écrites, mais qui se transmet dans la mémoire. Cependant, il faut prendre des précautions parce que la mémoire se déforme au bout d'un moment. C'est pour ça qu'après, il faudra croiser les sources écrites avec ces témoignages oraux. Donc, première richesse pour moi. Et aussi, le fait de voir que cette mémoire était encore relativement vivante. Et la deuxième grande découverte que j'ai faite, c'est qu'avec les historiens locaux, en cherchant des sources nouvelles, on s'est penché aussi sur les sources littéraires. Et on a trouvé notamment le livre écrit par un soldat anglais lieutenant qui s'appelait Robert Graves. Son livre s'appelait « Adieu à tout cela ». Et son livre « Adieu à tout cela », publié en 1929, relate son expérience de guerre dans les tranchées à Cambrai. Et dans son témoignage, on découvre l'évolution du moral des soldats anglais, comment les soldats anglais devaient jongler avec les différentes réglementations par rapport au port du masque à gage. En fait, ces sources qui étaient jusqu'alors très peu connues peuvent ressortir et peuvent être le point de départ aussi pour faire des projets pédagogiques derrière.
Voilà, je m'appelle Jean-Marie Louvry et je suis maire de Fétubert.
Est-ce que vous pouvez présenter cette commune et aussi, par rapport à ce dispositif, sa place, son identité ?
Fétubert, c'est une commune rurale, hein, de 1340 habitants, qui est située dans le bas-pays et qui est depuis quelques années considérée, à juste titre, comme une commune rurale. Et par rapport à ce qui se passe actuellement, malheureusement, nous avons été confrontés pendant la triste guerre de 1914-1918 à des événements vraiment dramatiques où les jeunes sont venus mourir sur le territoire français. Donc aujourd'hui, à travers la ligne de front, je pense que nous sommes tous présents pour respecter ce devoir de mémoire avec les personnes qui sont venues combattre pendant la guerre et qui malheureusement par la suite, on a pu le constater, sont revenus à nouveau à notre période en 1939-1940. Et là, la folie humaine a encore pris malheureusement un autre chemin et beaucoup de gens sont morts à cause de tout ça.
Donc là, nous sommes dans les rues de Fétubert. Comment cette ville s'est redéveloppée après la guerre 14-18 ?
D'abord, elle a été entièrement démolie, entièrement détruite. Il y a eu des bombardements. 100% de tout ce qui était construction sur Fétubert a été détruit. Et donc elle s'est reconstruite sur les anciennes fondations de ces anciennes structures. Et petit à petit, la population qui était environ 1400 habitants avant la guerre de 1914-1918 s'est retrouvée à 600 ou 700. Il a fallu recommencer progressivement à développer la commune, à la reconstruire. Et maintenant, vous voyez, nous sommes pratiquement arrivés au même chiffre de population qu'avant la guerre de 1914-1918, puisque nous sommes à 1340 habitants.
Donc, je présume que beaucoup d'hommes sont morts pendant cette guerre. Donc, la population est devenue, à un moment donné, très féminine. Comment ça s'est rééquilibré par la suite ? Ça a été un long combat ?
Je le suppose, puisque je vous dis, moi, je ne suis pas originaire de Fétubert, puisque moi, je suis originaire du Nord. Mais je pense que c'est effectivement ce qui a dû se passer. Il y a dû avoir des mouvements de population qui sont commencé à se recréer. Et Fétubert, je disais tout à l'heure, est une commune rurale qui a une certaine attractivité. Et au fil du temps, les gens sont venus s'y installer.
On y est bien, Fétubert ?
Je suis en train de vous le dire depuis tout à l'heure, on y est effectivement très bien. Puisque nous avons, à travers nos frontières, une assez bonne réputation, je dirais même au-delà.
Quels sont les points forts de cette ville qui est un village rural ?
Oui, tout à fait, c'est un village rural, mais on y accueille beaucoup de gens, y compris les ruraux, mais également des citadins qui sont venus s'installer ici sur Fétubert, d'abord pour le prix des terrains, pour reconnaître qu'ils sont quand même plus accessibles lorsqu'on habite dans un autre secteur par rapport à la métropole lilloise notamment. Mais il y a aussi d'autres choses que nous avons voulu développer. Ici, dernièrement, il y a 2 ans, nous avons aménagé une salle des sports, où là, les gens y trouvent leur compte. Dans peu de temps, on va également participer à ce qui nous est imposé par le ministère de l'Éducation nationale, ce sont les rythmes scolaires. Donc on va essayer de faire en sorte que les gens puissent y trouver la manière la plus agréable possible à travers ces rythmes. Et puis, il y a pas mal d'associations qui se sont créées. Il y a un dynamisme. Dernièrement, il y a encore une association qui a sorti de terre, on peut dire. Et puis, à travers la salle des sports, il y a eu également un renouveau également de jeunes qui se sont investis dans la vie associative de la commune.
L'intercommunalité pour cette exposition est évidemment importante puisqu'elle est au cœur du financement et de l'organisation. Pour vous, c'est une chance ?
Une chance, oui et non. Vous savez, j'aurais préféré qu'il n'y ait jamais rien de particulier à Fétubert. Ça aurait voulu dire que par le passé, il ne s'est rien passé. Malheureusement, ce n'est pas le cas, comme je disais tout à l'heure. Et c'est vrai que Artois.com, sur ce projet, a mis en avant toutes les communes qui ont été sur la ligne de front. Fétubert en fait partie. Et comme je disais aussi tout à l'heure, on a ce devoir de mémoire. Et je remercie Artois.com d'avoir participé à cet effort et qui permet justement à tous les gens de pouvoir se rendre compte que malheureusement, on s'est bagarré sur notre territoire et que beaucoup de jeunes ont laissé la vie.
Fétubert est bien gardé.
Oui, bien gardé, mais enfin bon, on met quand même un petit regard là-dessus aussi, hein, parce que dans ma commune, j'ai un garde champêtre, et quelquefois on est obligé d'intervenir, hein, quelquefois les animaux qui font un peu trop de bruit, hein, mais bon, ça fait partie aussi des petites choses de la campagne, on va dire.
Voilà, donc les touristes arrivent en bus, c'est un bon signe pour vous ?
Oui, enfin, comme ils auraient pu venir aussi à pied, hein, puisque c'est ce qu'on a fait, nous. Hein, vous voyez, on a 200 mètres, hein, il faut aussi participer à la vie de notre village, et puis également la parcourir, hein, de long en large, puisqu'on a des chemins de randonnée. Hein, et le bus, c'est bien pour les grands déplacements, mais pour les petits déplacements, c'est aussi intéressant de pouvoir emprunter les chemins de randonnée pédestres, qui sont aussi aménagés et entretenus par Artois-Com.
Bonjour, je m'appelle Dany Darzac et je participe à l'exposition Ligne de front avec un film et une exposition de photographie qui s'appelle Comme un seul homme. Comme un seul homme qui, pour moi, veut à la fois lier les trois nations, enfin toutes les nations entre elles, que ce soit les belligérants français, anglais, allemands et tous ceux qui sont venus sur la ligne de front. Et également comme un seul homme pour à la fois parler de la génération de ces jeunes gens qui à 20 ans mouraient sur les champs de bataille et qu'est-ce qu'aujourd'hui, à un siècle d'écart, ce que pensent les nouvelles générations de 20 ans ?
Les textes sont lus par des jeunes, on va dire de lycée.
Lycée ou des jeunes étudiants aussi, de faculté, de lycée, et de entre 17 et 25 ans, 30 ans.
Donc ils interprètent les textes écrits par qui ?
En fait, c'était des lettres qui ont été identifiées dans les centres d'archives à Berlin, à Péronne et à Leeds. Elles ont toutes été traduites en français. Et Fabrice Rosier, qui est un ami auteur, a créé l'histoire d'un soldat qui va justement mourir dans les tranchées. Et ensuite, on a découpé ces textes en petits morceaux et on l'a fait apprendre par cœur à certains jeunes volontaires de bien pouvoir parler devant la caméra. On est allé identifier des lettres qui étaient les plus visuelles et les plus émotives, de façon à ce que tout d'un coup, ce gosse, quand il lit cette lettre sur le terrain de bataille où son arrière-grand-père est peut-être décédé, comprenne le froid, l'odeur, la violence, la mort, tout ça. C'était ça l'enjeu.
Donc cette production, avant qu'elle ne soit présentée ici, elle a été réalisée où ? Elle a été produite par qui ?
Elle a été produite par Lab La Banque, mais également été aidée par différentes structures, dont il y a Picto Navio, il y a l'Espace 36, enfin il y a un certain nombre de personnes qui m'ont aidé à faire ce travail. Je peux parler aussi de la filature à Mulhouse, enfin il y a différents endroits, je ne les ai pas la liste là. C'est un travail assez conséquent.
Ce travail est ici présenté, ensuite il va se déplacer ?
Oui, j'espère qu'il va trouver sa place dans un centre d'art à Paris, mais en tout cas il sera en novembre prochain à Mulhouse, à la filature de Mulhouse, mais il sera aussi à Saint-Omer et il y a des projections du film qui seront montrées à l'Espace 36 et à la Coupole aussi. Voilà.
Les baïonnettes brillent au bout des fusils. De la tranchée voisine, située à 800 mètres sur la droite, partent des coups de feu. On se demande anxieusement ce qui se passe. Quand surgit devant nous une coulée de casques bras, ils sont à 600 mètres. L'alarme est aussitôt donnée. C'est pour cette nuit, là maintenant, une attaque. Et les chefs crient « Allez, au travail !» Et nous, comme un seul homme, on y va.
Chacune de nos balles doit porter, car l'objectif approche.
se détachent dans le jour qui commence à poindre. Mais rien n'arrête cette coulée de casques jaunâtres. Ils sont à 400 mètres.
Mon fusil me brûle déjà les doigts. Les coups de canon retentissent, les balles sifflent, suivent du tac-tac des mitrailleuses. On n'est plus soi-même dans ces moments-là, entouré de cadavres qui gisent et que l'on enjambe pour changer de position. Il faut retraverser la zone où ça canarde encore. Les gaz sont exténués. Mais déjà, nous nous rassemblons autour de notre chef de section. La mitraillette fait rage maintenant. Et nous traversons le dernier barrage ennemi. Comme nous sommes regroupés, ils descendent un homme par seconde. Nous voilà pris entre deux feux.
Donc Dominique Saint-Pierrot, c'est mon projet Sparking Letters. C'est l'idée de lettres écrites à des soldats qui sont dans le cimetière de... qui sont dans le cimetière d'Aisne-lès-Lavassé, et puis aussi, j'imagine, John Kipling écrivant une lettre à son père sur la guerre. Voilà, c'est le cœur du projet.
Avec la participation de jeunes ?
Alors moi, j'ai travaillé dans les écoles de plusieurs villes ici, d'Aisne-lès-Lavassé, etc. Et j'ai dit aux enfants, écoutez, on va écrire une lettre, on va choisir un soldat, et on va lui écrire une lettre comme si on parlait à son âme. Et les enfants, en fait, sont embarqués là-dedans. Alors à la fois, je leur disais, mais qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on écrivait aux soldats? On parlait de sa vie, donc pour les distraire du front. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Alors c'est amusant parce que je leur ai dit, mais imaginez ces bouteilles de verre, on les retrouvera dans 100 ans. Et les gens découvriront la musique que vous aimiez, les jeux auxquels vous jouiez, vos amis, votre vie, etc. Donc tout à coup aussi, il y a quelque chose d'historique. Et puis on allait jusqu'à imaginer un colis qu'on pourrait envoyer avec des friandises, avec des douceurs, ça allait des fraises Tagada au chocolat, voilà. Donc c'était vivant, c'était une façon, en fait, moi, mon idée, c'est le devoir de mémoire, comment le poétiser, comment le rendre sensible pour des enfants, plutôt qu'uniquement de défiler dans les rues le jour des commémorations.
On peut expliquer la scénographie avec les bouteilles et les messages ?
Alors les bouteilles dans le conteneur, c'est donc 218 bouteilles. C'est 218 enfants qui ont recopié leurs lettres sur un papier et qui l'ont glissé dans une bouteille. On a bouché ça pour que ça... comme une bouteille à la mer. Il y a aussi cette idée d'envoyer une bouteille à la mer, une espèce d'espoir comme ça. Toutes ces lettres sont écrites à chaque soldat du cimetière d'Aisne-lès-Lavassé. Donc chaque nom de soldat est recopié. Donc ça, c'est le premier travail que j'ai fait, qui est oui, une façon de, aussi d'amener la fraîcheur des enfants dans cette commémoration qui est un peu lourde. On parle beaucoup de la souffrance, de la violence de la guerre, mais c'est bien d'amener les enfants à parler à une âme, à l'âme d'un soldat. Donc ça, c'est un des axes. Et puis l'autre axe, ce sont les petites chapelles du poilu, c'est-à-dire ces petits objets que les poilus avaient sur eux, des balles, ou des tubes d'aspirine ou des bijoux féminins dans lesquels il glissait une Vierge Marie ou un Saint-Christophe. Ces chapelles des poilus étaient censées leur porter bonheur. Et en fait, moi, je suis rentré en contact avec ce projet dans une brocante à Mons, où j'ai racheté hors de prix, c'était 60 euros le petit objet, donc trois chapelles qui avaient appartenu à trois poilus et qui étaient vendues dans les brocantes, etc. Ensuite, ces chapelles, bah, moi, je les ai faites en grand. Je trouvais qu'elles avaient quelque chose de... l'objet était beau. Imaginez qu'elles avaient été touchées, serrées dans les mains des poilus, je trouvais ça aussi émouvant. Donc j'ai fait des grands formats. Et puis j'ai eu une autre idée, c'est que je les ai prises dans des environnements différents, dans la cendre, dans des cailloux, dans de l'herbe. C'est-à-dire, je les ai remis dans des endroits où on aurait pu les trouver, finalement, dans la nature, ces petites chapelles. Voilà. Ça, c'est tout ce qui est visuel. Donc les 218 bouteilles, 218 lettres, Sparking Letters, les lettres scintillantes. Elles scintillent comme des étoiles, comme si on écrivait à l'éternité. Et puis le dernier point fort de ce conteneur, c'est un court-métrage que j'ai fait. J'ai pris plein d'images de lieux qui ont été traversés par les poilus, en courant, en rampant, à plat ventre, debout, en marchant, dans des lieux qui sont maintenant des champs, des trottoirs, des villes, des friches. Et ces images, j'en ai fait un court-métrage que j'ai intitulé Sparking Letters, et j'ai imaginé John Kipling écrivant une lettre à son père. Puisqu'évidemment, le point fort aussi de cette histoire, c'est que John Kipling est mort à Los Angeles, le fils du grand écrivain Rudyard Kipling. Deuxièmement, il avait été pistonné par son père pour faire cette guerre parce qu'il était myope, il aurait dû être réformé. Donc c'est cette espèce d'amour filial qui va jusqu'à la mort. Et j'ai trouvé cette situation bouleversante, surtout que Rudyard Kipling, peu de gens le savent, est revenu à Los Angeles tous les ans jusqu'à sa mort. Il est mort à peu près 74 ans, je ne suis pas très sûr du chiffre, mais c'est à peu près ça, sans avoir retrouvé le corps de son fils. Et j'imagine John, l'âme de John, voyant son père, cherchant son corps, et lui parlant. Donc ça, c'est le court-métrage Sparkling Letters, qui dure 20 minutes. C'est l'autre point fort, le troisième point fort de ce container.
Ce qu'il regarde, lui, cet homme, mon père, en lui, devant lui, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Il regarde entre quatre yeux son désir d'être moi pour se battre enfin avec l'ennemi.
Le seul ennemi que l'on connaisse. Lui-même, se battre avec lui-même.
Et vaincre, se libérer de vaincre, de tout désir, de vaincre, de tout désir.
Oui, le retrouver, il n'a aimé que ça. Attendre, le prolonger dans son regard. Que je rende mon corps à la furie de ses remords, de ses éclairs.
Ah oui, il n'a aimé que ça maintenant.
Le retrouver, le prolonger dans son regard.
C'est le travail d'une artiste qui s'appelle Sophie Ristel-Hubert, qui est une photographe française. Et l'idée, c'était de présenter une œuvre qui s'intitule Père, qui est une vidéo, à peu près 18 minutes. Hein, et l'idée, c'était de travailler autour d'une personne de sa famille qui est décédée à la guerre en 1916, son grand-oncle, à l'âge de 22 ans. Première Guerre mondiale, et elle a retrouvé des lettres de ce grand-oncle qui évoque régulièrement la maison de famille, alors qu'il est au front et qu'il écrit à sa famille. Donc l'idée, ça a été de partir de ces lettres, notamment de cette maison de famille, maison d'enfance, et d'y retourner et de la filmer. Donc on voit essentiellement des vues en plongée, des pièces, des tapis élimés, des motifs de mobilier, de tapisseries, de meubles usés. Et l'idée, c'est de se dire que finalement, cette maison de famille, elle garde en fait les traces, les empreintes en creux de toutes ces personnes qui sont disparues, qui ne sont plus là. Donc c'est vraiment un travail sur le vide, sur l'absence, sur l'anéantissement. Donc c'est quelque chose qui est assez prenant. Et vous allez voir notamment que la bande-son est assez forte. C'est un opéra de Franz Schubert qui s'intitule Le Roi des Aulnes, qui a été composé par Schubert en 1813 sur un poème de Goethe qui raconte notamment en fait le voyage un petit peu d'un père et de son fils à travers une forêt qui fuit une créature qui souhaite finalement, qui ne souhaite que leur mort. Et donc ils essaient un peu d'échapper à cette créature, mais ça va être un voyage un peu, c'est un peu en vain parce qu'ils ne vont pas pouvoir échapper à leur destin. Et donc c'est vraiment cette bande-son qui accompagne tout le travail de Sophie Ristel-Hubert. Voilà.
Bonjour, je suis Brigitte Laglace et j'habite Béthune. Je suis une béthunoise depuis 3 ans seulement puisque je viens de la région parisienne. Je suis une expatriée, si on peut dire, et je suis très très intéressée par le passé du Nord-Pas-de-Calais, que ce soit par l'extraction du bassin houillé, du charbon ou autre, ou alors de ce qui s'est passé pendant la Grande Guerre et tous ces événements-là. Donc aujourd'hui, je me retrouve dans ce voyage organisé un peu.
On parle beaucoup actuellement de tourisme historique. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui pourrait fonctionner en région Nord-Pas-de-Calais ?
Ah oui, bien sûr, mais ça existe un petit peu déjà, hein, avec les greeters et tout ça. Si. Hein. Et c'est important de faire connaître la région, et ne serait-ce que les Parisiens qui n'aient plus ce cliché du Pas-de-Calais avec les films un peu bébêtes. Hein.
Parfois on perd un pied, une main. Parfois on perd un copain. Un jeu, un minute cassé. Ce sera pas déçu. Et ce n'est qu'un début.
C'est sûr. Cette chanson de l'atelier de Bernard Debrenne que se termine ce reportage sur cette exposition Ligne de front 14-18 qui vous accueille tous les jours jusqu'au 28 septembre 2014 sur chacun des villages du parcours. Une visite complète en autocar vous est proposée par l'association Éclide au départ de Douvrin le dimanche 7 septembre à 10h. Information sur le site de l'Éclide www.eclid.fr. C'était Ligne de front 14-18, une émission de René Lavergne de Radio Campus.